Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Expondi Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons à la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspirée, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bienvenue dans un nouvel épisode où nous allons explorer le parcours de résilience de Sonia Seidel face à la maladie d'Hashimoto. Sonia, nutrithérapeute, coach AIP et tout récemment co-autrice du livre « Soigner l'auto-immunité avec le protocole AIP », va nous partager son voyage personnel et celui de son fils adolescent vers la rémission. Bienvenue Sonia dans Les Résilientes.
Merci Caroline.
Alors, je suis très heureuse de t'avoir sur ce podcast parce que tu es la première à parler de rémission avec Hashimoto. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît?
Alors, moi, je m'appelle Sonia Seidel. Comme tu le disais, je suis nutrithérapeute et coach AIP. Je suis aussi spécialisée dans la santé intestinale. Et je vis maintenant au Texas. Ça fait plus de 24 ans que je vis aux États-Unis. Et avec ma famille, donc j'ai deux enfants qui sont adolescents et je suis mariée, j'ai deux chiens, un cheval et tout. Et donc je fais de l'accompagnement avec des clients qui souffrent de maladies auto-immunes
en visio.
Et donc effectivement, j'ai la maladie d'Hashimoto que j'ai depuis, j'ai été diagnostiquée en 2002. Forcément, ça faisait bien plus longtemps que ça que je l'avais, puisqu'une maladie auto-immune, ça ne se déclare pas du jour au lendemain, comme on le sait. Et donc, j'ai été diagnostiquée en 2002 suite à une visite chez le médecin, parce que je me posais des questions sur ma santé. Voilà.
Alors justement, quels ont été les premiers signes de la maladie?
Alors, pour moi, les premiers signes ont été une grosse, grosse perte de poids. Au point où on se demandait vraiment ce qui m'arrivait parce que je mangeais toujours de la même manière et je faisais toujours le même style de sport. Donc, c'est pas comme si je m'étais préparée à faire un marathon ou je faisais du sport à gogo, non, non. Et donc, au bout de quelques mois, je me suis dit quand même, il faut que j'aille voir un médecin, il y a un truc qui va pas. Et donc, j'étais chez le médecin qui m'a fait une prise de sang et tout de suite qui m'a diagnostiqué avec la maladie d'Hashimoto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, la maladie d'Hashimoto, on est plutôt hypothyroïdien ou thyroïdienne. Mais qu'avec la maladie d'Hashimoto, on peut passer de hypothyroïdie à l'hyperthyroïdie. Et donc, moi, j'étais dans la phase d'hyperthyroïdie, d'où la perte de poids énorme au départ, quoi. J'avais pas vraiment de palpitations de cœur comme les gens qui ont une hyperthyroïdie, mais la perte de poids était assez incroyable. Et donc après, par la suite, je suis passée à l'hypothyroïdie, donc j'ai eu d'autres symptômes qui sont déclarés, qui étaient complètement différents des premiers symptômes que j'ai eus.
Qui étais-tu avant la maladie, avant que tu déclares ces premiers signaux d'Hashimoto?
Alors en 2002, j'étais jeune, célibataire, je venais d'arriver aux États-Unis quelques années auparavant. Je m'y plaisais beaucoup, j'étais arrivée toute seule, je m'y plaisais beaucoup. Donc je travaillais, j'étais project manager dans l'industrie du pétrole. Et donc je m'amusais beaucoup, je sortais, je faisais la fête, comme on fait quand on est jeune. Et puis j'étais insouciante en fait. Et quand le diagnostic m'a été donné, je n'ai pas vraiment réalisé le type de diagnostic qu'on me donnait parce que le médecin m'a dit, bon, ben voilà, vous avez cette maladie, vous prenez cette pilule le restant de vos jours et puis ben, vous irez bien, quoi. Donc sur le coup, je n'ai pas vraiment fait de recherche, je ne me suis pas trop posé de questions. Mais c'est par la suite, quand d'autres symptômes se sont déclarés, que je me suis dit, non, ça ne va pas, il y a un truc qui ne va pas. Donc c'est vrai qu'à l'époque, ça m'a pas plus choqué que ça ou plus perturbé que ça.
Oui, donc en fait, tu ne connaissais absolument pas cette maladie, tu n'en avais
Non.
jamais entendu parler.
Non, jamais entendu parler.
Donc, pas de d'antécédents dans ta famille.
Bah, pas que je sache. Je suppose qu'il doit y avoir des gens qui ont peut-être eu des problèmes de thyroïde, mais qui ne l'ont pas su, ou je ne sais pas, parce que je ne sais pas s'ils ont fait faire des prises de sang comme moi, je me suis fait faire. Je suppose qu'il y a eu des gens dans ma famille auparavant qui ont eu soit des maladies auto-immunes, soit cette maladie en particulier. Mais peut-être que les médecins faisaient pas des recherches ou cherchaient pas à savoir ce que les gens. Parce que les symptômes d'Hashimoto sont des symptômes assez généraux qui pourraient être les symptômes de plein de maladies différentes. Donc, je suppose que ça pourrait.
Oui, parce que pour que les gens comprennent, hein, les symptômes, en tout cas d'Hashimoto, peuvent inclure de la fatigue, une prise de poids, une sensibilité au froid, une peau sèche, de la constipation, des douleurs musculaires, des troubles de l'humeur, comme de la dépression. Donc oui, c'est des symptômes qu'on peut facilement retrouver. Chez des personnes qui sont sujettes avec d'autres pathologies auto-immunes, ou, enfin, c'est pour ça que le diagnostic est parfois difficile
Oui,
à mettre en place.
oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance d'aller voir un médecin qui a tout de suite su quel test faire. C'est vrai que je n'ai pas attendu 10, 15 ans comme certaines personnes qui souffrent de maladies auto-immunes et qui mettent autant d'années à être diagnostiquées. Ça, c'est vrai. Mais oui, donc ça, c'est vrai que j'étais chanceuse pour ça.
Comment tu as réagi donc au diagnostic? On t'annonce cette maladie, tu ne la connais pas. Bon, mais qu'est-ce que tu mets en place suite au diagnostic? Quels
Bah,
ont été
suite au
les
diagnostic, je n'ai pas
premiers?
mis en place grand-chose parce que déjà, une année avant, j'avais été diagnostiquée avec de l'endométriose. Donc ça m'avait un peu ralenti dans ma vie de tous les jours parce que je souffrais énormément de douleurs, quoi. Donc j'étais plus préoccupée par cette maladie-là que ma maladie d'Hashimoto à l'époque. Après, j'avais fait quelques recherches, j'avais lu que beaucoup de personnes qui avaient de l'endométriose avaient souvent la maladie d'Hashimoto aussi. Les deux étaient souvent liés. Donc je m'étais dit, bon, bah, c'est comme ça et puis c'est tout. Donc sur le moment, quand j'ai eu mon diagnostic, j'ai pas changé grand-chose dans ma vie. C'est bien après, en souffrant de symptômes, dont plein de symptômes que tu viens de mentionner pour la maladie d'Hashimoto, comme la prise de poids, j'avais pris quand même 15 kilos. J'ai pris 15 kilos au cours des années sans changer encore mon alimentation, la façon de bouger ou des choses comme ça. Après, j'avais une perte de cheveux, la peau sèche, le brouillard cérébral, la fatigue. Donc c'est au bout de plus de. Je crois que j'ai mis 15 ans avant de me dire bon, faut que je fasse autre chose parce que ce que je fais de prendre une hormone thyroïdienne ne fonctionne pas.
Et d'après toi, quel a été le moment clé qui t'a amené à créer de la résilience?
C'est le jour où, ça va peut-être choquer certaines personnes, mais je faisais faire les devoirs à mes enfants et je faisais, on faisait des devoirs, c'était sur l'orthographe, donc je leur faisais épeler des mots et je me suis endormie, littéralement endormie tellement j'étais morte de fatigue. Et c'est là que je me suis dit, non, c'est quand même pas possible, c'est pas normal, quoi, 4 heures l'après-midi de s'endormir parce qu'on est. Et en plus, c'est pas comme si j'étais assise sur le canapé à ne rien faire, j'étais vraiment active, quoi, dans ce que je faisais avec mes enfants. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, faut que je trouve une autre solution. Donc, je suis retournée voir mon médecin généraliste qui m'a dit, moi, je peux pas vous aider, vos résultats sanguins sont normaux, enfin, sont dans les chiffres où ils devraient être, je sais pas comment on dit en français.
Dans les normes, oui.
Dans les normes, voilà, dans les normes. Donc, moi, je ne peux pas vous aider, j'ai rien d'autre à vous proposer, mais je peux vous envoyer vers ce médecin qui est un médecin intégratif et qui va peut-être pouvoir vous donner d'autres solutions. Donc, je suis allée voir ce médecin et tout de suite, elle m'a dit, mais il faut que vous changiez votre façon de manger. Alors, c'est vrai que sur le coup, j'ai dit quoi, ma façon de manger, mais comment ça? Quand elle m'a donné la liste des aliments qu'il fallait que je retire de mon alimentation, j'ai dit, oh là là, ça va être dur, dur. Mais bon, j'étais tellement décidée à changer quelque chose dans ma vie pour me sentir mieux que j'ai dit, il n'y a pas question, enfin, j'ai pas de question à me poser, je vais le faire.
Étais-tu ouverte justement aux médecines complémentaires?
Oui. Oui, j'ai toujours été ouverte à ce genre de médecine et intéressée par ce genre de médecine. C'est vrai, mais je ne sais pas comment j'avais jamais trouvé des choses sur Internet concernant le protocole auto-immunité parce que Avec toutes les recherches que j'avais faites, j'étais jamais tombée dessus, en fait, bizarrement.
Et ce médecin intégratif, il utilisait le protocole AIP ou pas du tout?
C'était son protocole à elle qu'elle utilisait. Et donc, elle m'avait dit, il faut retirer tous ces aliments de votre alimentation, mais pour le restant de votre vie. Et même les fruits. J'avais dit quand
Ah
même,
oui.
c'est bizarre.
Okay.
Donc, quand elle m'a dit ça, j'ai dit, OK. Bon. J'ai commencé à suivre le truc. Puis après, je me suis dit, non, je ne peux pas arrêter de manger des fruits pour le restant de ma vie. Ce n'est pas normal quand même. Et c'est là que j'ai commencé à rechercher sur Internet et que je suis tombée sur le protocole AIP où j'ai vu que c'était le même style de protocole, mais c'était que la phase d'élimination n'était que temporaire.
Oui, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le protocole AIP, en quoi il consiste, pour que les personnes puissent comprendre?
Alors, le protocole AIP a deux composantes. Il y a une composante alimentaire. Qui va, en fait, le protocole AIP, à la base, va aider les gens à retirer l'inflammation qui est chronique, qui est dans le corps des gens qui ont une maladie auto-immune, et donc à arrêter cette inflammation pour que le corps retrouve une sérénité, en fait, on peut dire, et redémarrer au départ, redémarrer, j'ai du mal à parler aujourd'hui, redémarrer au. Le système immunitaire et calmer le système digestif parce que l'auto-immunité est quand même reliée au système digestif. Donc, il y a deux composantes, comme je disais. Il y a une composante nutritionnelle où on va retirer une certaine liste d'aliments pendant une phase d'élimination qui dure 30 à 90 jours. On dit 30 à 90 jours, mais pour certaines personnes, il va falloir plus que 90 jours. Ça peut prendre jusqu'à 6 mois pour vraiment faire un reset du système immunitaire et pouvoir recommencer à réintroduire ces aliments un par un pour voir ceux qui vont être en accord avec votre corps, quoi, en fait. C'est le corps qui va dire que, par rapport à chaque aliment, oui, cet aliment, c'est bon, on peut continuer de le manger, ou cet aliment, non, ne me convient pas pour l'instant ou à durée indéfinie, et il va falloir continuer de l'éliminer. Et ensuite, il y a une composante mode de vie qui est très importante aussi, qu'il faut faire en tandem avec la composante alimentaire. Et la composante mode de vie, il y a plusieurs aspects. Il y a un aspect sommeil, donc s'assurer qu'on dort suffisamment et qu'on a un bon sommeil réparateur. Il faut s'assurer de savoir gérer son stress, parce que le stress est très, très néfaste à la santé, comme on sait. S'assurer de rester en connexion avec les autres, la nature et soi-même. Donc, s'assurer qu'on passe du temps à l'extérieur, qu'on va marcher dans un parc, une forêt, sur la plage, des choses comme ça. Et rester en contact avec des vraies personnes humaines, pas juste par téléphone, envoyer des SMS ou envoyer des emails, parce que bien souvent, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vraiment de contact humain. Ensuite, il y a une composante, il y a un aspect où il faut s'assurer qu'on continue de bouger sans trop en faire pour ne pas stresser le corps encore plus. Donc, vous pouvez faire du sport, vous pouvez bouger, mais pas aller faire un marathon, comme je disais au début du podcast, parce que ça va être trop d'efforts pour une personne qui souffre de maladies auto-immunes. Et enfin, s'assurer d'éliminer les toxines environnementales, car elles sont forcément néfastes pour nous et on en a tout autour de nous. Donc, bien sûr, ce n'est pas de les éliminer toutes d'un coup, parce que ce n'est pas possible, mais au fur et à mesure, éliminer une par une. Souvent, les gens commencent par changer leur déodorant qui est plein d'aluminium. Donc, ça, c'est un point aussi important.
Oui, ça reste une démarche assez globale, assez holistique. Est-ce que tu peux nous dire quels sont dans le protocole AIP, quels sont les aliments à mettre de côté là, pendant la période d'éviction?
Alors, les aliments à mettre de côté donc, sont tout d'abord le gluten. Alors, le gluten, par contre, ce n'est pas un aliment à mettre juste de côté temporairement, c'est à l'infini, quoi, en fait. On le retire complètement et on ne le réintroduit pas. Après, il y a les produits laitiers, les œufs, les pseudo-céréales et les céréales, le
Comme le
café,
quinoa, c'est
comme
ça?
le quinoa, voilà, c'est ça. Le café et le chocolat, les solanacées comme les pommes de terre, les tomates, les piments, les poivrons, les aubergines, les huiles végétales comme l'huile de colza, l'huile de tournesol, le sucre blanc, les sucres, enfin, ça s'appelle pas des sucres, ce sont les édulcorants, l'alcool, les légumineuses, les fruits à coque. Alors, les gens ont l'impression que j'ai énuméré tous les aliments que on mange quotidiennement, mais non, je vous promets, il reste plein d'aliments à manger quand même.
Oui, c'est vrai que c'est impressionnant quand là tu énumères, tu cites là tous les aliments à mettre de côté. C'est vrai que ça peut faire peur. Et toi, comment tu as abordé ce protocole? Parce que tu mangeais tous ces aliments, j'imagine.
Oui.
Comment tu as procédé?
En fait, j'ai procédé par. J'ai transitionné vers l'AIP. J'ai pas, je ne me suis pas jetée à tête baissée dans l'AIP parce que c'est trop compliqué pour. La majorité des gens ne peuvent pas le faire, quoi. Et moi non plus, je ne pouvais pas le faire. Donc, au fur et à mesure, j'ai changé mon alimentation. Et c'est vrai que dans notre livre, on propose un autre type de transition parce qu'en fait, on s'est rendu compte que en retirant un groupe d'aliments par semaine, c'est trop négatif, ça a un aspect négatif par rapport à l'alimentation. Donc, dans notre livre, on propose de transitionner en créant un nouveau repas complètement AIP par semaine. Donc, la première semaine, vous vous concentrez à créer que des dîners AIP. Ensuite, la deuxième semaine, vous vous concentrez à créer que des déjeuners AIP. Donc, arrivé au bout de 4 semaines, tous vos repas seront AIP. Donc, on trouvait que ça avait un aspect beaucoup plus positif que de retirer un groupe d'aliments chaque semaine et d'avoir réinventé chaque semaine des nouveaux repas ou des nouveaux. Enfin, c'était trop négatif à notre goût.
Oui, parce que c'est vrai que quand on élimine trop de choses, le système nerveux peut se sentir en danger. Et ça peut créer énormément de stress, d'insécurité pour la personne qui met en place ces évictions. On le voit dans beaucoup de régimes, hein, de modes alimentaires un peu drastiques. Donc ça, c'est important que tu parles de ces fameuses transitions, ces pas à pas, un
Oui.
peu en mode Kaizen, pour vraiment ne pas paniquer, ne pas se sentir en insécurité face à ce changement radical.
Voilà, exactement. Donc,
Et c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je n'ai pas mis ce protocole AIP en place pour aller mieux, pour sortir de la spondylarthrite ankylosante. Toi qui accompagnes des personnes aussi qui cohabitent avec des maladies auto-immunes, tu dirais que. S'il y a un pourcentage de réussite à combien avec le protocole, à peu près, hein?
Moi, je dirais, c'est quand même 90% des gens qui commencent le protocole, on sent une différence quand même assez incroyable.
Justement, toi qui l'as pratiqué, quels ont été les premiers changements que tu as pu observer dans ton propre contexte de santé?
Ben, moi, mes symptômes ont disparu un par un, quoi. Un par un, j'ai retrouvé de l'énergie, j'étais plus fatiguée, je m'endormais plus quand je faisais les devoirs de mes enfants. Ma peau n'était plus sèche, j'ai perdu 15 kilos en mangeant, mais pourtant je mangeais des quantités énormes. Par moments, je me demandais comment je pouvais avaler des si grosses quantités, mais parce que je mangeais que des aliments qui étaient sains pour moi et donc qui m'ont permis de perdre les 15 kilos d'inflammation que j'avais dans mon corps, quoi, en fait. C'était pas du poids que j'avais pris parce que je mangeais de trop auparavant, c'était du poids que j'avais pris à cause de l'inflammation que mon corps avait créée.
Et donc ça sur une échelle de temps à combien à peu près?
Moi, mes symptômes, ils sont pratiquement tous disparus au bout de 3 mois, 3, 4
Ah
mois.
oui, c'est assez rapide.
C'était assez rapide. Bon, c'est pas forcément aussi rapide pour tout le monde. Après, ça va dépendre du cas de chaque personne. Ça va dépendre de depuis combien de temps vous êtes malade, depuis quel type de maladie vous avez. Si vous en avez une, deux, trois, après, il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, quoi. Mais c'est vrai que ça peut être rapide. Je vois mon fils qui a été diagnostiqué avec la même maladie que moi. Il était diagnostiqué tout au départ pas au départ de sa maladie, mais diagnostiqué très de bonne heure parce que j'ai reconnu tout de suite les symptômes. Et lui, au bout d'une semaine ou deux, ses symptômes, ils avaient disparu. Mais bon, il avait 12 ans, donc il avait été moins malade moins longtemps qu'une personne adulte, forcément.
Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu t'es aidé uniquement du protocole AIP pour être en rémission ou est-ce que tu as mis en place d'autres choses, d'autres techniques?
Non, oui, en fait, j'ai utilisé le protocole AIP, le côté composante du mode de vie. Forcément, je me suis assurée que je dormais suffisamment parce que c'est vrai que quand on a une maladie auto-immune, il faut s'assurer de dormir au moins 8 heures par nuit. Et même si vous dormez jusqu'à 12 heures par nuit, il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal, votre corps en a besoin. Je me suis assurée que mon stress était beaucoup moins important qu'auparavant. J'essayais de bouger tous les jours et même. Encore maintenant, 7 ans après avoir suivi le protocole, je m'assure toujours que tout ça, je continue de bien suivre ces changements de mode de vie. Non, je n'ai pas vraiment utilisé autre chose que ça. C'est vrai que c'est la
Oui, parce que ça
principale.
a été efficace pour toi.
Voilà, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher d'autres choses.
Donc aujourd'hui, toi et ton fils, vous êtes tous les deux en rémission.
Voilà, oui.
Comment ont réagi vos médecins, endocrinologues respectifs?
Alors moi, je vais t'avouer que j'ai plus d'endocrinologue. J'étais en voir tellement et été déçue tellement de fois que maintenant je vais chez un médecin généraliste. Mon médecin sait quelle dose de médicaments j'ai besoin. Elle sait que je suis nutrithérapeute, donc elle me fait confiance de ce côté-là. Et tant que ma prise de sang est bonne et celle de mon fils aussi, elle me dit, continuez de faire ce que vous faites parce que ça fonctionne très bien, apparemment.
Donc là, actuellement, tu ne prends plus aucun traitement.
Non, non, je prends toujours un traitement.
D'accord.
Malheureusement, je pense que j'avais été malade trop longtemps et que mon corps avait attaqué ma thyroïde trop longtemps, exactement. Et que je ne pense pas que je ne puisse produire de l'hormone thyroïdienne de moi-même. Moi, ça va faire plus de 20 ans que je suis malade, donc je pense que ça va être plus difficile. Mon fils, on est en train d'essayer de voir si on peut arrêter son médicament. Parce que lui, il a été malade que depuis 6 ans. Donc le médecin m'a dit qu'elle espérait que si on diminuait sa dose petit à petit, qu'on pourrait l'éliminer complètement. Mais ça, c'est à voir avec le médecin. C'est chaque médecin qui va savoir ce qui est mieux pour la personne en question. Et l'AIP est toujours fait. En fait, c'est toujours un protocole qui est fait pour être suivi en parallèle avec de la médecine conventionnelle. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de maladies auto-immunes qui demandent à ce que les personnes soient suivies par un médecin et qu'ils prennent un traitement bien spécifique. On ne peut pas arrêter le traitement du jour au lendemain en se disant, bon, je fais le protocole AIP, j'ai plus besoin de traitement. Non, ça, c'est pas possible. Pas toujours, en fait. C'est un truc à discuter avec le médecin.
C'est important, oui, de bien discuter du suivi, de la prise médicamenteuse, parce que oui, quand on rentre un peu dans la prise d'un traitement, on ne peut pas l'arrêter comme ça du jour au lendemain. Il y a aussi une réduction progressive à faire. Donc ça, c'est vraiment à voir avec votre médecin, votre endocrinologue. Ça, c'est important. Quel conseil pourrais-tu partager aux personnes qui vivent aujourd'hui avec la maladie d'Hashimoto et qui souhaiteraient reprendre les rênes de leur bien-être?
Oui, alors moi je préconise le protocole AIP forcément, parce que c'est vrai que je suis fan du protocole. Après, il n'est pas forcément pour tout le monde. Il y a des gens qui vont dire qu'ils pensent pas qu'ils peuvent le suivre, mais c'est vrai que moi je pense que c'est un protocole qui fonctionne. Je pense que ça vaut le coup de l'essayer. Après, ça coûte rien de l'essayer, hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter des compléments alimentaires pour suivre le protocole ou des choses comme ça, ou un appareil spécial ou quoi que ce soit. C'est vraiment, vous pouvez suivre ça de vous-même. Donc, je pense que ça vaut le coup de l'essayer parce qu'on ne sait jamais si ça fonctionne pour vous, que ça change votre vie. Je pense que ça vaut vraiment la peine d'essayer ce protocole et de mettre tous les atouts de votre côté, quoi.
Oui, parce que là, avec le protocole AIP et ton traitement actuel, ça t'a permis en fait de ne pas faire évoluer la maladie.
Voilà, exactement. Et ça m'a aussi permis de ne pas développer une autre maladie auto-immune, parce que c'est vrai qu'on dit bien souvent qu'une fois qu'on en a une, Je crois que c'est 7 fois plus de chances qu'une personne qui n'a pas de maladie auto-immune d'en développer une autre, d'en avoir une autre. Il arrive bien souvent qu'il y ait des gens qui aient une, deux, trois maladies auto-immunes en même temps. Donc ça, c'est vrai que ça m'a permis de ne pas avoir d'autres maladies auto-immunes.
Merci Sonia pour tous tes partages. Comment on peut te contacter?
Alors, on peut me trouver sur Instagram. Alors, c'est AIP, le tiré du dessous, all the way.
Okay.
Allthewey. On peut me trouver sur l'internet. Alors, mon site s'appelle yourwellnessrevealed.com. Et puis, j'ai aussi un programme que j'ai créé avec ma collègue avec qui j'ai écrit le livre, qui s'appelle J'adopte l'AIP. Et c'est un programme pour aider les gens à suivre le protocole AIP s'ils ont besoin d'un programme pour les aider à les motiver à suivre le protocole.
Parfait, je mettrai tous les liens en description de l'épisode. Merci énormément, Sonia, pour tout, pour ton témoignage, pour ta belle résilience. Et bah, écoute, je t'embrasse.
Merci, moi aussi. Merci, Caroline. Moi aussi, je t'embrasse.
Un immense merci d'avoir partagé ce moment de résilience avec moi aujourd'hui. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à suivre le podcast pour ne manquer aucune de mes futures conversations inspirantes. Et si les résilientes vous inspirent, je vous invite également à prendre un moment pour noter le podcast avec 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Chaque étoile et chaque partage sont des lumières qui guident ce podcast vers celles et ceux qui ont besoin d'inspiration, de positivité, que ce soit celles qui vivent avec une maladie ou celles qui accompagnent un proche dans ce parcours. Pour rester connecté, rendez-vous sur mon site internet mabellesante.com et suivez-moi sur mes réseaux sociaux. C'est là que je partage des conseils, des ressources et toutes les informations sur mes accompagnements dédiés aux guerrières qui aspirent à devenir beaucoup plus fortes que leur maladie auto-immune. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles histoires de résilience.